le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bon dimanche à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire de ce magazine. Nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais et de l'aider à s'extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a duré trop longtemps. Ce sont les propos du nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. Martin Kobler a pris ses fonctions comme chef de la MONUSCO lundi 12 août à Kinshasa. Le lait maternel est un aliment complet selon les nutritionnistes. Le Monde a consacré toute une semaine à la sensibilisation sur l'allaitement maternel. En RDC, un enfant seulement sur trois est nourri exclusivement au sein jusqu'à 6 mois. Nous vous en parlons tout à l'heure avec un spécialiste de l'UNICEF. Les clubs d'écoute communautaire d'Imitra à Isangi, district de la Tchopo en province orientale, un moyen de booster le développement agricole et de prévenir la crise alimentaire dans cette partie quasiment enclavée du pays. Un forum s'y est tenu du 9 au 10 août dernier sur ce projet de lutte contre la pauvreté. Les détails dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le nouveau patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a pris ses fonctions en début de semaine à Kinshasa. Il s'est directement mis à l'ouvrage. Première réunion, prise de contact avec le personnel de la MONUSCO et les responsables des agences du système des Nations Unies en RDC, Honoré Missenga Kalala.
C'est mardi dernier que Martin Kobler a pris ses premiers contacts avec le personnel de la MONUSCO. C'était au quartier général de la mission à Kinshasa. Et le nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU a vite fait d'annoncer ses couleurs. Nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais. La sécurité, la paix et le développement sont à notre portée, surtout dans l'est du pays où les populations ont tant souffert, a-t-il déclaré notamment. C'est le 10 juin dernier que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a nommé à son nouveau poste en remplacement de Roger Miss. 60 ans, Martin Kobler est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Bonn en Allemagne. Il traîne derrière lui une riche expérience dans l'élaboration des politiques internationales dans les zones en conflit. Son itinéraire, la carrière diplomatique, commence notamment de 1998 à 2000 et de 2000 à 2003, respectivement comme chef de cabinet adjoint et chef de cabinet au ministère allemand des Affaires étrangères. Bien avant, il était chef adjoint du groupe de travail sur les Balkans au même ministère et avait installé la représentation allemande auprès de l'autorité palestinienne à Jéricho. Directeur général de la culture et de la communication encore au même ministère des Affaires étrangères, il sera par la suite ambassadeur de son pays en Irak, puis en Égypte. Comme diplomate onusien, on retiendra de la carte de visite de Martin Kobler, notamment comme représentant spécial adjoint à la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan de 2010 à 2011. Avant sa nomination comme chef de la MONUSCO, actuellement, il était représentant spécial et chef de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak, où il a travaillé pour promouvoir les valeurs et les politiques des Nations Unies. Martin Kobler est marié et père de 3 enfants.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La communauté internationale consacre une semaine chaque année à l'allaitement maternel. Le thème retenu en 2013 est soutenir l'allaitement aux côtés des mères. Le docteur Animi Telesi Kanene est administrateur chargé de la nutrition à l'UNICEF RDC. Elle revient sur ce concept et fait le point sur la situation de l'allaitement en RDC dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Koko.
Docteur Animi Telesi Kanene, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi une semaine mondiale de l'allaitement maternel en RDC?
Une semaine mondiale de l'allaitement maternel, comme nous le savons, allaiter c'est un acte noble et qui doit se faire selon les normes. Et donc, allaiter dans l'art qui suit l'accouchement, allaiter de façon exclusive jusqu'à 6 mois et on doit allaiter jusqu'à 24 mois ou plus, la nuit, la journée et selon la demande.
La demande de l'enfant.
Selon la demande de l'enfant. L'allaitement procure des avantages pour l'enfant. Pour la maman, la famille, y compris le papa, la communauté et le pays.
Ah, vous avez dit quelque chose de très important. Ça peut avoir beaucoup plus d'avantages pour l'enfant. Là, je suis d'accord. Ah, et oui. Lorsque vous parlez de l'avantage pour la maman, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi?
Les avantages pour la mère, lorsque la maman accouche, il y a le sang qui coule. À la première heure, dès qu'on met l'enfant au sein, ça permet la contraction de l'utérus et le placenta à la facilité de sortir et ça retient cette hémorragie. Nous savons dans notre pays, parmi les causes qui tuent beaucoup les mamans, c'est l'hémorragie après l'accouchement. Et donc, c'est vraiment important également pour la maman.
Et pour les papas?
Les papas font sortir de l'argent pour acheter
des raisons économiques.
Chaque année, au niveau du monde entier, y compris la RDC, on célèbre une semaine par année qu'on appelle semaine de l'allaitement maternel pour soutenir, maintenir cet allaitement.
Alors, quels sont les objectifs de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, madame?
Les objectifs, d'abord, attirer l'attention de l'importance du soutien des pères pour aider les mères à maintenir l'allaitement. Donc les pères, pour dire, ce sont des groupes, par exemple les groupes d'allaitement. Donc ceux qui allaitent déjà, qui savent comment allaiter et qui peuvent aider les mères à allaiter ou à promouvoir cet allaitement.
Et comment se passe cette semaine en République démocratique du Congo?
En République démocratique du Congo, il y a quelques activités d'envergure qui sont organisées. Il y a son Excellence, mais c'est le ministre de la Santé qui a fait son mot pour sensibiliser la population. Et nous devons soutenir l'allaitement aux côtés des mères. Donc la population devait soutenir les mères à pratiquer l'allaitement. Et donc il y a un mot du ministre de la Santé qui passe dans les différentes chaînes de la plaque ainsi que dans la presse écrite.
Ça c'est pour la sensibilisation?
Oui, ça c'est pour la sensibilisation.
Oui.
Et donc, il y a également, monsieur le ministre, qui a visité une grande maternité de la place, par exemple, la maternité de Kitambo, pour encourager les mamans à soutenir l'allaitement aux côtés des mères. En plus de cela, il y aura des spots sur l'allaitement qui vont commencer à passer dans les différentes chaînes pour sensibiliser également la population sur l'allaitement.
Madame, une question qui me vient en tête, quel est l'état des lieux de l'allaitement maternel en République démocratique du Congo?
En République démocratique du Congo, 4 nouveaux-nés sur 10 sont mis au sein dans l'arc qui suit accouchement. Donc, un enfant sur 3 est allaité de façon exclusive. Et un enfant sur 2 continue son allaitement jusqu'à 24 mois ou plus.
Mais un enfant sur 3, l'allaitement maternel, mais c'est quand même peu, c'est peu.
Oui, en tout cas.
À quoi cela est dû?
Un enfant sur 3 qui sont allaités de façon exclusive.
Oui.
Donc, il y a que l'enfant ne prend que le lait maternel, pas de l'eau, pas autre chose que le lait. Un enfant sur 3 est allaité de cette façon. Donc, il y a des faiblesses au niveau des structures. C'est pour cela qu'on doit soutenir les mères pour qu'ils puissent allaiter et on peut atteindre même 100% ou 50%. Oui, donc, c'est un acte qui est naturel, mais il y a certaines difficultés qui empêchent les mamans à allaiter et arriver à allaiter jusqu'à 6 mois. Il y en a qui disent que jusqu'à 6 mois, l'enfant ne prend pas autre chose que le lait maternel, c'est insuffisant. C'est ça qu'ils pensent. Or, si on les sensibilisait, si on les informait, donc c'est pour cela qu'on dit qu'on doit consulter les groupes de pères, les groupes de soutien, ceux qui savent comment c'est fait concrètement l'allaitement. Une femme qui ne connaît pas, ils peuvent les soutenir. Une femme qui accouche, qu'on pense qu'il y a une petite faiblesse là, devant, c'est un peu de renforcer ce côté-là pour que l'allaitement soit vraiment exclusif, soit vraiment effectif.
Docteur, comment se passe l'allaitement maternel pour les mères séropositives?
Selon l'OMS, une mère séropositive peut allaiter son enfant. Et donc, il doit également faire la politique du pays qui est la mère séropositive doit aussi allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois. Et le faire de façon continue jusqu'à une année. Mais à condition qu'elle soit sous ARV et son enfant également soit sous ARV pour essayer de diminuer les risques de contamination, les risques de l'infection.
Mais généralement, on craint tout de même la contamination du VIH, sida à l'enfant.
Une mère qui allait et qui est sous ARV, le risque de contamination est de 5%. Le risque est moindre. Par contre, un enfant qui n'est pas allaité, il a aussi le risque de mourir. On pense que le risque n'est pas vraiment grand et donc la mère qui est séropositive peut allaiter, à condition qu'il prenne également ses ARV.
Alors, quel rapport entre la santé maternelle, les grossesses rapprochées chez les femmes et l'allaitement maternel?
L'allaitement maternel, c'est aussi une forme de contraception. Ça permet de faire un planning familial. Donc, c'est la méthode qu'on appelle la méthode MAMA. MAMA, ça signifie méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Aménorrhée, c'est, il n'y a pas de règles.
En d'autres termes, une femme qui allaite n'a pas ses règles.
Une femme qui allaite, surtout de façon exclusive, dira 6 mois qu'elle ne va pas avoir ses règles. Et donc, ça lui permet de ne pas aussi tomber enceinte. Donc, elle ne doit pas mélanger l'allaitement maternel et autre chose. Donc, si elle ne fait qu'allaiter exclusivement, donc elle donne qu'elle l'ait à son enfant, donc elle peut aussi se protéger contre
les grossesses. Et si on a affaire à une femme qui est malade, est-ce qu'elle doit continuer à allaiter?
Oui, une femme qui allaite doit continuer à allaiter. Même si elle est malade, ça ne modifie en rien son statut d'allaiter.
Revenons à votre organisation, l'UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF fait pour encourager l'allaitement au sein maternel en République démocratique du Congo?
Ok, pour encourager l'allaitement maternel, l'UNICEF fait les plaidoyers. Dans notre pays, nous avons un code de substitut de lait maternel. Il appuie également ces codes-là. Il appuie les hôpitaux amis des bébés pour promouvoir également l'allaitement maternel. Il appuie les communautés. Donc, le souci est que les communautés puissent s'approprier cet allaitement pour encourager les mères à continuer à allaiter afin qu'on puisse avoir un taux élevé d'allaitement. Et également, il appuie les formations.
Et on forme quoi, les femmes essentiellement?
Non, pas seulement les femmes. Il y a les prestataires, il y a les communautés. Donc, c'est à plusieurs niveaux, à tous les niveaux.
Qu'est-ce que vous direz des femmes qui donnent du biberon, du lait artificiel aux enfants et qui ne pratiquent pas l'allaitement maternel? Je veux parler par exemple des femmes qui travaillent, qui n'ont pas assez de temps et qui ne font que donner du biberon par exemple à l'enfant.
Aux femmes qui donnent au biberon, donc nous devons les déconseiller. Donc des fois on dit donc le biberon, si c'est mal entretenu, et donc surtout quand on met le lait et c'est un aliment qui apporte facilement les germes. Et donc, si c'est mal entretenu, donc il y a le risque que l'enfant puisse attraper la diarrhée et parmi les premières maladies qui tuent l'enfant. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est à déconseiller.
Docteur Annie Mitelezi-Kanane, nous vous remercions.
Merci.
Nous ouvrons la page de nouvelles en bref avec cette cagnotte de la Banque mondiale, 4 millions de dollars américains. C'est le fonds que cette institution de Bretton Woods met à la disposition du gouvernement congolais pour créer un laboratoire multifonctionnel. L'information a été annoncée mardi dernier à Kinshasa par le ministre de la Santé publique. Selon Félix Noumbi, le laboratoire multifonctionnel permettra au gouvernement congolais de contrôler tous les produits pharmaceutiques et agroalimentaires commercialisés en RDC. Il a précisé que ce laboratoire travaillera en collaboration avec l'Office congolais de contrôle. Autre nouvelle, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a organisé une journée porte ouverte sur l'UNESCO et la Commission nationale congolaise pour cette agence des Nations Unies le mardi dernier à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. La vice-ministre de l'EPSP et le représentant de l'UNESCO en RDC ont présidé le lancement de cette journée porte ouverte. Les clubs UNESCO, les écoles associées et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de la capitale y ont pris part. Santé, la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la polio a eu lieu comme prévu du 15 au 17 août 2013 sur l'ensemble du territoire national. Comme lors de la première phase tenue du 11 au 13 juillet dernier, cette deuxième phase de la campagne a ciblé un peu plus de 16 millions d'enfants de 0 à 59 mois. L'UNICEF et l'OMS ont contribué notamment à l'achat des vaccins et au coût opérationnel des activités. À la veille de la deuxième campagne, le ministre de la Santé publique, toujours avec la participation de ces deux organismes onusiens, est allé à la rencontre des parents et des communautés sur terrain dans la ville province de Kinshasa en vue de les sensibiliser davantage. Enfin, en partenariat avec le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, la MONUSCO a célébré le 12 août la Journée internationale de la jeunesse à travers un dialogue social entre les jeunes eux-mêmes, les autorités politico-militaires et la MONUSCO. Les participants, environ 500, étaient venus de Rutshuru, Nyiragongo et Goma.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
environ 60 clubs d'écoute communautaire d'Imitra, des responsables des radios communautaires et acteurs de développement, se sont donné rendez-vous à Isangi, en province orientale, sous l'égide de la FAO. Objectif, échanger leur expérience relative aux clubs d'écoute et discuter de la dynamique de ces clubs et des résultats obtenus. Eliane Najros, fonctionnaire principale et coordonnatrice projet d'Imitra, a conduit ce forum. Elle parle de l'impact de ces clubs d'écoute sur la sécurité alimentaire et aussi des conséquences de l'isolement du district de la Tchopo. Suivez cet entretien réalisé avec Jean-Pierre Ilali Coco.
Madame Eliane Najros, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'animer un forum des clubs d'écoute et communautaire à Isangi. Isangi, c'est dans la province orientale. Dans quel contexte économique et social se trouvent les districts de la Tchopo actuellement?
Alors, le district de la Tchopo est dans un contexte qui est très isolé. La province est particulièrement enclavée, avec des routes qui sont en très mauvais état. Il y a énormément de rivières à passer, de ponts cassés, de bacs qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent qui sont très chers. Et donc, c'est une province où il y a aussi énormément de maladies, qu'elles soient du bétail ou de maladies dues à des problèmes d'assainissement et d'eau impropre. Donc c'est une province où il y a également un taux d'analphabétisme, surtout chez les femmes, qui est très élevé. Donc c'est un contexte qui n'est pas facile.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens en ce qui concerne un club d'écoute communautaire d'Imitra? C'est quoi?
Alors, un club communautaire d'Imitra, c'est un groupe de femmes et d'hommes et de jeunes qui sont proches géographiquement, qui habitent en général le même village, qui décident librement de se réunir régulièrement pour discuter de leurs problèmes, de leurs priorités et de s'organiser pour chercher ensemble des solutions qu'ils vont ensuite mettre en œuvre. Et le principe du club d'écoute, c'est d'avoir une action commune et de faire de cette action une auto-prise en charge des problèmes.
Voilà, c'est une rencontre vraiment qui s'est faite en toute liberté. Est-ce qu'il n'y a pas de modérateurs? Comment ça s'est passé concrètement?
Si, il y a des modérateurs. Ces clubs d'écoute, ou certains membres des clubs d'écoute ont reçu des formations. Il y a eu une formation initiale avec des membres des clubs d'écoute qui ont participé. Et ensuite, il y a des équipes qui tournent, l'équipe du projet qui est basée à Yagambi, qui tourne avec des modérateurs et des animateurs qui sont du coin, qui sont vraiment ancrés dans la population, dans le milieu rural, et qui tournent pour vérifier que l'approche club d'écoute, qui est une approche qui est participative, où chacun doit pouvoir s'exprimer, les hommes, les femmes, les jeunes, librement et bien respectés.
Après quelques temps, quel est l'impact qu'on peut avoir de ces clubs d'écoute sur le plan agricole notamment et sur le plan alimentaire?
Nous avons trouvé qu'à la suite de ce forum, l'impact est considérable. Il faut bien imaginer que ces clubs d'écoute ont démarré seulement en novembre dernier. Il y en a maintenant 60 qui ont en moyenne une trentaine de membres chacun. Mais évidemment, le nombre d'habitants touchés est bien plus élevé. On a environ 167 villages qui sont touchés, 60 clubs d'écoute, une trentaine qui attendent d'être clubs d'écoute aussi, 18 000 bénéficiaires concernés et probablement des centaines de milliers de personnes qui sont indirectement touchées aussi. Donc au niveau de la sécurité alimentaire, ces clubs d'écoute ont changé des comportements en matière de culture, de techniques culturales employées, de mise en commun des ressources. Par exemple, certains clubs d'écoute ont décidé de louer ensemble des champs pour faire par exemple du riz, culture de riz, de profiter du calendrier saisonnier pour avoir de récoltes, pour faire des ventes groupées. Ils ont également, ces clubs d'écoute, contribué à changer et à casser des tabous alimentaires importants, comme le fait que par exemple les femmes ne peuvent pas manger certains types de poissons ou des œufs. Donc ceci a complètement disparu dans la majorité des clubs d'écoute. De ce qui a été en tous les cas repris par les clubs d'écoute, c'est que nous mangeons maintenant, hommes, femmes et jeunes, tous ensemble.
Madame Eliane, est-ce qu'on peut étendre cette expérience dans les restes de la République démocratique du Congo? C'est quand même une expérience formidable.
C'est une expérience formidable, en effet. Cette expérience existe déjà en République démocratique du Congo.
Dans quelle province, par exemple?
Elle est née, pardon, au Sud Kivu, en 2006. où nous avons discuté, à l'époque c'était pour lutter contre les violences sexuelles et de l'impact que ces violences sexuelles avaient sur la sécurité alimentaire, puisque les femmes ne pouvaient plus aller au champ pour cultiver. Et donc on s'est aperçu là qu'il n'y avait aucun lien entre les populations rurales et les radios communautaires qui étaient censées les servir. Donc il y a des clubs d'écoute au sud Kivu, il y a des clubs d'écoute au Katanga, et il y a des clubs d'écoute au Niger, au Sénégal, en Mauritanie et au Burundi. Et nous allons essayer de démarrer des clubs d'écoute, enfin nous démarrons, c'est pas qu'on va essayer, des complémentarités entre les clubs d'écoute et les écoles au champ, en République démocratique du Congo et dans tous les pays.
Et madame, vous avez un dernier mot ?
J'ai un dernier mot parce que je m'aperçois qu'on n'a pas discuté des rapports hommes-femmes qui ont été bouleversés, absolument. Donc des relations entre les uns et les autres. Les hommes et les femmes discutent beaucoup entre eux à la maison, comme ils discutent beaucoup entre eux dans le cadre des clubs d'écoute. Ça a véritablement changé les rapports entre les époux et les conjoints. Et donc, je crois que là, on voit que les femmes maintenant, qui ne pouvaient pas, dans certains villages, s'adresser aux hommes, parlent totalement librement. En tous les cas, pendant le forum, je peux vous dire que toutes ces femmes étaient là et parlaient. Elles disent d'ailleurs qu'elles ont la liberté d'expression et que ça a bouleversé leur vie, ainsi que celle des hommes, pour le mieux et pour le meilleur de toute la communauté.
Et madame, nous vous remercions.
Merci à vous.
Notre nouvelle en province nous emmène tout droit en Bujimaï, au Kasaï oriental. La campagne d'inscription des enfants, filles et garçons à l'école est en cours dans cette ville. Elle est organisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, en collaboration avec l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La campagne vise l'inscription de plus de 400 000 enfants à l'âge scolaire et plus de 600 000 enfants adolescents hors de l'école dans la province du Kasaï oriental. Esther Ndalafina y est, elle nous en parle dans ce reportage.
La campagne d'inscription des enfants, filles et garçons à l'école au Kasaï oriental a été couplée à la souscription. Le gouverneur de province a rappelé que la République démocratique du Congo a souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement et l'éducation pour tous. Pour y parvenir, au Kasaï oriental, la campagne 2013-2014 vise l'inscription des 400 000 enfants à l'âge scolaire et plus de 600 000 enfants adolescents qui sont hors de l'école. L'autorité provinciale a, au cours de cette manifestation, inviter les parents à faire inscrire leurs enfants à l'école. Alphonse Ngoy Kasanji.
Ceci exige la mobilisation et la participation de tous à cette action salvatrice qui constitue sans nul doute l'édifice du Kasaï oriental du futur.
Pour cette campagne 2013-2014, l'UNICEF a appuyé la scolarité des enfants de plus de 400 établissements scolaires. Madame Diane Kimboko, chef de bureau intérimaire de l'UNICEF.
L'appui de l'UNICEF va consister à doter en kit éducatif 75 458 nouveaux entrants à travers le transfert d'argent à 485 écoles.
Les parents présents à cette manifestation déplorent de voir les responsables scolaires exiger les frais aux élèves à l'approche des examens. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'adresse particulièrement aux PAM. Dernièrement, au Nord Katanga, il y a eu une sonnette d'alarme pour le camp de déplacés. Il n'y avait pas assez de nourriture pour servir tout le monde. Le peu qu'il y avait était suffisant pour un mois. Est-ce votre sonnette d'alarme a été entendue? Cette question est de Venant vous dit ça, journaliste de la RTNC. Voici la réponse de Fabienne Pompé.
C'est un vrai problème qu'il y a dans le Katanga en particulier, mais qu'il y a aussi dans d'autres provinces, mais au Katanga c'est particulièrement aigu. On a un gros problème de financement. On a un gros problème de financement, on a un manque de vivres dans certains endroits. Bon, pas partout, on a suffisamment de stock pour le moment dans les Kivu. Mais le Katanga cette année a été vraiment, on a été vraiment dans une situation difficile, on était obligé de couper les rations. Un certain nombre de programmes scolaires ont même dû être interrompus. Si vous ne pouvez pas savoir comme c'est terrible, c'est terriblement frustrant et dur de se dire qu'on a 300 000 enfants dans les cantines depuis le début de l'année, que ces gosses ont un repas par jour et que tout d'un coup, pouf, on n'est plus capable de leur donner. En tant qu'organisation humanitaire, c'est insupportable comme situation. Donc c'est vrai qu'on a actuellement besoin de mobilisation de fonds. On a besoin que les donateurs traditionnels, mais aussi ceux qui jusqu'à présent ne donnaient pas particulièrement aux PAM, prennent la mesure des difficultés dans lesquelles nous sommes et que les financements arrivent rapidement. pour qu'on puisse à nouveau travailler et pouvoir remplir notre mission jusqu'au bout. On a un gap de financement de 48 millions sur les 6 prochains mois, 48 millions de dollars. On sait qu'un certain nombre de donateurs sont toujours à l'écoute et sont toujours prêts à nous soutenir, mais il y a encore des efforts à faire pour qu'on puisse mener vraiment à bien cette mission. J'espère de tout cœur que cette année, non seulement on pourra reprendre le programme de cantine scolaire totalement, mais avec des rations pleines, et que ces enfants pourront retourner à l'école en ayant chaque jour un repas chaud.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je suis Pamela Lubakikeya. Je suis fiancée, je serai mariée bientôt, Inch'Allah. J'ai suivi des études secondaires en scientifique en option biochimie. Et puisque j'étais passionnée au journalisme à l'université, je suis allée à l'IFACIC où j'ai décroché un diplôme de gradué en sciences de l'information et de la communication. J'ai aussi un diplôme en gestion de projet que je suivis au centre de formation de l'Alliance Belgo-Congolaise. J'ai aussi plusieurs diplômes pour avoir participé à des sessions de formation en matière électorale. Actuellement, je travaille à la division de l'information publique de la MONUSCO, au bureau du porte-parole, où je suis team assistante aux unités monitoring et relations avec médias. Et ce poste, je l'occupe depuis octobre 2011, donc à la veille des élections. Je commence mon travail à 5h50. Mon travail consiste à faire la collecte quotidienne des informations de la presse nationale et étrangère sur le processus de paix en République démocratique du Congo et toute autre information ayant intérêt pour la mission onusienne et produire un document d'information qu'on appelle panorama de presse et le distribuer à toute la mission et aussi à d'autres personnes qui désirent le recevoir au plus tard à 8h30. Puis, je fais la revue de presse locale. Au cours de la journée, je collecte les informations qui sont publiées dans les sites internet, tant national qu'international, que je publie au fur et à mesure que l'information évolue. Avant la MONUSCO, j'étais à la Commission électorale nationale indépendante, à la division sensibilisation éducation civique électorale, où j'occupais les postes de chargée des productions de support audiovisuel. J'ai travaillé aussi comme journaliste reporter à la chaîne de télévision Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa. Et puis, je suis allée à Géopolis Magazine. Là-bas, j'étais également journaliste reporter. Mon temps libre, je l'occupe souvent. Je vais à l'église, puisque j'ai quelques engagements à l'église. Puis, quand je n'ai rien à faire, je regarde la télé. J'aime bien suivre les séries télévisées chaque soir. Ça médite un peu. Comme préférence, j'aime bien la musique chrétienne. Surtout le groupe Adorant l'Éternel, et puis les musiques internationales gospel. Et j'ai l'habitude de le suivre souvent en voiture, quand je conduis, ça me détend beaucoup. Et comme sport, j'aime la natation, mais bon, je ne la pratique pas souvent, mais j'aime courir. Ça, je le fais presque chaque dimanche soir. Comme projet d'avenir, je compte faire des études en master en management. Puisque j'ai déjà suivi une formation sur la gestion des projets. Je suis trop intéressée dans des projets, notamment dans la planification stratégique, les suivis et l'évaluation. J'aspire aussi travailler comme fonctionnaire des Nations Unies sur le plan international, notamment pour les élections, puisque j'aime les élections et j'ai un bon bagage sur cette matière. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À noter dans vos agendas, ce lundi 19 août, chaque année, depuis 10 ans, cette date est consacrée à la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Cela en hommage aux agents des organismes humanitaires morts dans l'exercice de leurs fonctions. Autre journée à célébrer cette semaine, c'est la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Sa date, c'est le 23 août. C'est la fin de ce magazine. Mila Kimbouni était à la présentation avec l'assistance technique de Jean-Claude Tiala. Cette émission a été supervisée par Ben Kabamba, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga était au reportage. Vous pouvez retrouver le magazine sur www.radiocapi.net. Trois manières de nous faire parvenir vos suggestions, vos questions ou vos remarques. Appelez-nous au 082-30-76-630. Écrivez-nous au maguen@radiocapi.net, maguen@radiocapi.net ou postez un commentaire sur le site internet de la radio, radiocapi.net. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée dominicale à tous.